il y a la simplicité. Ah, très bon argument. C'est la simplicité. En Dieu, regardez l'article 3, la question 3 de saint Thomas. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre le suppôt et la nature. Pas de distinction entre l'hypostase et la nature. C'est bien évident. Or, vous dites que l'union ne se fait pas dans la nature, donc elle ne se fait pas dans la personne. Là, vous êtes coincé. Parce que vous allez contre la simplicité. Alors, c'est la simplicité qui commande tout ça. Réponse. On lit dans les actes du concile de Chalcédoine. Vous voyez comment la théologie positive est présente ici. C'est le concile de Chalcédoine. Et c'est très beau de voir que saint Thomas prend le concile de Chalcédoine. Hein, s'appuie dessus. Quand on dit qu'il n'est pas... Non, non, il connaît parfaitement. Hein. Nous confessons un seul et même Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est ni partagé, ni divisé en deux personnes. Il faut donc bien que l'union se soit faite dans la personne. Ça, c'est l'affirmation de l'autorité. Hein. C'est pas éclairant, mais ça fait comprendre. Alors, le mot « personne » n'a pas la même signification que le mot « nature ». Hein, très calmement, après avoir montré ce que c'est que la nature, saint Thomas va nous montrer enfin ici ce que c'est que la personne. On peut dire que c'est un des grands soucis de saint Thomas. Hein. Durant toutes ses œuvres, saint Thomas est revenu tout le temps sur personne-nature. Ah, et c'est encore, si vous voulez, un des grands problèmes d'aujourd'hui. C'est le mot personne-nature. Alors évidemment, dans la tentation aujourd'hui de supprimer nature, et d'avoir personne, ça c'est sûr. Les personnalistes et la nature, non, 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 c'est du vieil Aristote. Tandis que le mot personne, grâce à Dieu, n'est pas dans Aristote, donc il est pur. Tandis que le mot nature, il est dans Aristote. Alors ça ne va pas. Le mot personne, il n'est pas. Alors c'est beau, hein, c'est très bien. C'est très bien. C'est les stoïciens, c'est très bien. Personne. Le mot personne n'a pas la même signification que le mot nature. Ce dernier, en effet, désigne l'essence qui spécifie un être et que la définition exprime. Mais à partir de ce moment-là, quand on a donné l'étymologie, nous retenons le dernier moment du sens de la nature qui exprime l'essence, qui spécifie un être et que la définition exprime. Donc nature et quidité sont mis ici dans la même signification. Et puis la définition est là. Si rien d'autre ne pouvait venir s'adjoindre dans un être aux éléments spécifiques, nul besoin ne serait de distinguer la nature de son suppôt. Alors ça, évidemment, ça présuppose, hein. Saint Thomas a vu la distinction entre la nature et le suppôt dans la question sur la simplicité. Qu'est-ce que c'est qu'exactement le suppôt? Nous reviendrons là-dessus. Hein. Donc, si rien d'autre ne pouvait venir s'adjoindre à un être aux éléments spécifiques, nul besoin ne serait de distinguer la nature de son suppôt. Saint Thomas prend la même argumentation qu'à la question 3. Ce qui pose quelques petites questions, hein, mais ça ne fait rien. Celle-ci étant précisément l'individu subsistant dans la nature. Voilà ce que c'est que le suppôt. L'individu subsistant dans la nature. Tout individu subsistant dans une nature quelconque serait identique à celle-ci. Mais il arrive que dans certaines réalités subsistantes, l'on trouve des éléments qui n'appartiennent pas à l'essence, comme les accidents, les principes individuants. Et cela apparaît surtout dans les êtres composés de matière et de forme. Dans ces réalités, par conséquent, la nature et le suppôt diffèrent réellement l'un de l'autre. Non pas sans doute comme des éléments complètement séparés, mais parce que le suppôt renferme outre la nature, certains autres éléments qui n'appartiennent pas au constitutif de la nature. Des éléments très simples, c'est facile à comprendre. Votre individu, il est fait de quantité, il est fait de qualité. Tout ça, c'est les éléments individuants. Ces éléments individuants font que votre nature, nature humaine, est distincte de votre suppôt. Chacun d'entre nous n'avons notre petit suppôt. Pensez pas au suppôt du démon, hein, c'est autre chose. Hein, chacun d'entre nous, nous avons notre petit suppôt. Nous sommes un être individuel avec toute notre individuation, notre originalité. Et puis nous avons notre nature. Et c'est distinct, parce que la nature n'implique pas certains éléments qui font partie de notre individuation. Aussi, le suppôt apparaît-il comme un tout dont la nature est la partie formelle et perfective. Et de là vient que dans les composés de matière et de forme, on n'attribue pas la nature au suppôt. On ne dit pas en effet « cet homme est son humanité ». Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire « je suis l'humanité ». Vous ne pouvez pas dire ça. S'il se trouve au contraire une réalité en laquelle il n'y a rien que son essence ou sa nature, comme il arrive pour Dieu, donc ça c'est le mystère de la simplicité de Dieu, nous n'aurons pas dans ce cas de distinction réelle entre le suppôt et la nature, mais seulement une distinction purement rationnelle, une distinction purement conceptuelle, il est dit ici. Alors, solum secundum rationem intelligendi, mais seulement selon la raison intelligendi, de comprendre cette réalité. Donc, on peut dire purement conceptuelle. Cette réalité sera dite nature, parce qu'elle représente une certaine essence. Elle sera dite suppôt, parce qu'elle est une nature subsistante. Ce que nous disions du suppôt, il faut l'entendre aussi à propos de la créature rationnelle ou intellectuelle de la personne. Car la personne n'est pas autre chose, au dire de Boès, que la substance individuelle d'une nature rationnelle. Alors vous voyez la chose très intéressante ici, que saint Thomas fait habituellement, du reste, à la suite de Boès, il sait de Boès. C'est que ce que représente le suppôt, de façon courante, toutes les choses individuantes comparent la différence entre le point de vue de l'essence, entre le point de vue de la nature. Si je le regarde par rapport à une nature spirituelle, à une nature impliquant l'esprit, ce sera la personne. Donc, la différence qui existe entre suppôt et nature, c'est la même que la différence qui existe entre personne et nature. Tel que saint Thomas le présente ici. Donc, tout ce qui se trouve dans un être personnel, que cela appartienne en propre à sa nature ou non, lui est donc uni dans la personne. En conséquence, si la nature humaine n'est pas unie dans la personne au Verbe de Dieu, elle ne lui est unie d'aucune façon. Et du coup, disparaît entièrement notre foi en l'incarnation. C'est toute la foi chrétienne qui est ruinée. Bref, puisque le Verbe possède une nature humaine qui lui est unie, puisque d'autre part cette nature n'appartient pas de soi à la nature divine, il s'ensuit que l'union se fait dans la personne du Verbe et non dans sa nature. Oui, c'est pas lumineux, hein. C'est pas étonnant, hein, je ne peux pas vous expliquer le mystère. Je ne peux pas expliquer le mystère. Et certainement ne peut pas expliquer le mystère. Je veux se montrer comment nous pouvons maintenir une adhésion de foi qui soit parfaite. En précisant exactement où se fait l'union. Est-ce que l'union se fait dans la nature ? Non. Comment se fait-elle ? Elle ne peut se faire que dans la personne. Si on veut garder une union qui ne soit pas accidentelle. Vous voyez, les deux extrêmes toujours, hein, c'est toujours ce qu'on avait vu précédemment. Et c'est sans doute à cause de cela que saint Thomas met la première article, vous comprenez ? Parce que, c'est ce que je vous disais en commençant, nous sommes en présence d'une union. Alors vous avez ou une union dans la nature, ou une union accidentelle. Union accidentelle, œuvre d'art. Ou union dans la nature, alors c'est l'inverse, l'union dans la nature fait que il n'y a plus qu'une nature qui absorbe l'autre. Et donc, vous n'êtes plus en face de deux natures. Le Christ est à la fois Dieu, il est en même temps homme. Parce que je dois maintenir la foi. Et donc, l'union, si elle se fait dans la nature, le Christ ne peut plus être à la fois Dieu et homme. Si l'union se fait de façon accidentelle, le jeu du Christ n'a plus de signification. Nous sommes donc obligés de bien comprendre que l'union ne se fait ni accidentellement, ni dans la nature, elle se fait au niveau de la personne. Comment comprendre la personne relativement à la nature, hein ? Nous sommes partis de la nature, vous comprenez ? C'est là où on voit très très bien que dans une perspective moderne où le mot personne a été très élaboré, le mot personne ne se redéfinirait pas par rapport à la nature. Ce qui nous gêne là, c'est que vous voyez, c'est toujours le fantôme nature qui est présent, et qu'au fond, vous ne regardez la personne qu'en fonction de la nature. Est-ce que, alors je repose le problème d'une autre manière, est-ce que la personne a une intelligibilité propre et immédiate ? Ou est-ce que je suis obligé de passer par la nature pour avoir l'intelligibilité de la personne ? Tout le problème est là, pour savoir si on accepte ou on n'accepte pas cette question, cet article. Est-ce que, vous voyez, je repose la question, parce que c'est important, ça. On aura tous ces problèmes-là. Hein. Ça, c'est tout de suite, ça, c'est bien évident, on les aura tous. Parce que c'est le problème actuel, ça. Alors, est-ce que je peux comprendre l'union dans la personne, la révélation, les deux personnes humaines et divines sont unies d'une façon hypostatique. Et une façon hypostatique, c'est de lire dans la personne. Si je veux lire l'Écriture, je vois que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le bon pasteur. » C'est bien la personne du Christ. Est-ce que c'est sa nature humaine ou sa nature divine ? C'est sa personne, je. Tout d'accord. Bien évident. Quand vous faites un chose et que vous dites je, c'est votre personne. C'est pas votre nature humaine. Non, c'est votre personne. Parce que c'était la nature humaine, ce que vous faites, lorsque vous faites du vos âges, c'est la même nature que vous. Tandis que dans la personne, non, j'ai pas la même personne que toi. Grâce à Dieu. La même nature, oui, enfin, nous avons tous la même nature, mais nous n'avons pas la même personne. Notre personne, c'est tout à fait différent. Quand je fais quelque chose, c'est ma personne, c'est moi qui suis responsable de ça. Je. Alors, la grosse question se pose, c'est la grosse question. La grosse question se pose pour nous, est-ce que pour découvrir la personne, je dois la considérer comme fait saint Thomas à partir du suppôt, le détour du suppôt. Donc le détour du suppôt qui est le détour de l'individuation. Le suppôt implique quelque chose de plus que la nature. Hein. Est-ce que je fais ce détour du suppôt pour découvrir la nature en disant tout simplement le suppôt dans une nature rationnelle, c'est la personne. Alors à ce moment-là, je comprends négativement l'union dans la personne. Ce n'est pas l'union dans la nature, c'est l'union dans ce que représente le suppôt. Mais le suppôt, c'est quoi ? Ah, c'est ce qui s'ajoute dans les notes individuantes. Oui, c'est un peu gênant. Moi, ça me gêne. Je ne sais pas si ça vous gêne, mais moi, ça me gêne. C'est un peu gênant, quoi. J'expliquerai ça à quelqu'un qui n'aime pas saint Thomas. Nous l'aimons tous. On en accepte, on dit très très bien. Mais quelqu'un qui n'aime pas dire, mais non, quoi. Vous voyez, en philosophie, hein, nous essayons de faire toute la session sur la personne était d'essayer de comprendre la personne, non pas par la nature, mais par la substance. La personne ne peut pas se comprendre au niveau philosophie de la nature, elle ne peut se comprendre qu'au niveau de la substance. Et elle peut se comprendre qu'au niveau métaphysique. C'est très curieux, ça. Alors, est-ce que ça... On le verra au terme, hein, je ne vais pas répondre tout de suite, du reste. Mais je pose le problème. Posez-vous le problème, pouvons-nous comprendre la personne humaine indépendamment de la question nature-suppôt ? Pouvons-nous comprendre la personne ? Pouvons-nous comprendre directement la personne sans passer par nature-suppôt ? Toute l'argumentation de saint Thomas, c'est nature-suppôt. Je suis d'accord, c'est très intéressant, mais est-ce que ça dépend d'une perspective qui est celle de Boès, la définition de Boès, qui prend le point de vue de la nature raisonnable, qui prend le point de vue du suppôt, de la nature individuante, qui fait l'individu ? Est-ce que je peux comprendre autrement la personne ? Si je peux comprendre autrement la personne, c'est très intéressant de regarder ce que dit saint Thomas, mais je dirais ça, ça dépend de tout un contexte philosophique du temps. Contexte, aller un peu plus loin. Et dépasser ce contexte philosophique du temps, tout en comprenant, en voyant très bien. Saint Thomas faisait ça normalement, il a toute la définition de saint Thomas, et c'est tout le temps le point de vue de Boès qui revient, tout le temps. Saint Thomas est très très soumis à une doctrine, à du moins à une tradition, du point de vue de Boès. La définition de Boès est très intéressante, c'est bien évident qu'elle est intéressante, elle charrie quelque chose de très intéressant, mais est-ce que c'est la seule que nous pouvons donner ? Oui, alors, je crois qu'il faut regarder ça, nous y reviendrons au terme, hein, parce que je ne veux pas abîmer la question de saint Thomas, je veux la comprendre progressivement d'abord. Et nous posons successivement nos petites questions. N'est-ce pas ? Parce que je crois que, du moins, vous êtes peut-être entièrement satisfait en disant « Oui, c'est admirable. » J'avoue, je ne suis pas entièrement satisfait. Il y a quelque chose qui... Ah ! C'est un peu négatif. Vous voyez ? Alors, on comprend, et c'est important pour comprendre les objections modernes. Il ne faut pas être fermé vis-à-vis des objections modernes. Il faut les comprendre. Hein, il faut les comprendre par rapport à un texte qui, à première vue, semble un peu court. Vous voyez ? Semble un peu court. Hein, tout le personnalisme qui s'est développé avec Mounier, avec Maritain, avec Geffrey, tout ce personnalisme. Alors, est-ce que de fait, nous devons entrer dedans et à partir de là, donner une nouvelle théologie de l'incarnation ? Du moins, une nouvelle herméneutique du concile de Chalcédoine. Parce que la question, c'est de causer une nouvelle herméneutique du concile de Chalcédoine. Que l'union se fait in persona. Qu'est-ce que nous devons dire ? Bon, réfléchissez, hein. Nous le ferons à la fin, au terme. Hein. Au terme, j'aime mieux. Alors, voyons tout de suite la réponse. en Dieu. Donc la réponse à la première objection. En Dieu, personne et nature sont identiques. Hein. En Dieu, nature et personne sont réellement identiques. Saint Thomas ne peut pas se contredire. Hein. In Deo non est aliud secundum rem natura et persona. Mais n'ont pas la même signification. Differt tamen secundum modum significandi. Comme il est dit dans le corps de l'article. Donc, n'ont pas la même signification, ou ne sont pas identiques, diffèrent selon le mode de signifier, selon notre manière de signifier. En effet, le mot personne, appliqué à Dieu, le désigne comme un être subsistant. Persona significat per modum subsistentis. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Voilà ce que c'est que veut dire. Quand je dis personne en Dieu, ça, c'est tout à fait per modum subsistentis. Puisque l'union de la nature humaine au Verbe, fait que le Verbe subsiste en elle sans aucune addition ni transformation pour la nature divine. C'est donc bien que cette union se fait dans la personne et donc dans la nature. Vous voyez que cette petite réponse précise la conclusion de l'article parce qu'on fait intervenir le point de vue de la subsistance. Tandis que quand je mettais le suppôt et la nature, ce qui me gênait un tout petit peu, c'était uniquement qu'on avait l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ajoute. En réalité, le mot suppôt, du reste saint Thomas dit, c'est ce qui subsiste, c'est un tout qui subsiste. Mais dans l'objection, saint Thomas montre mieux le biais sous lequel on va comprendre. C'est le point de vue de la subsistance. C'est par la subsistance. Ça apparaît tout de suite, vous voyez. C'est très intéressant à ce point de vue-là, comme manière de... C'est curieux que saint Thomas n'ait pas mis dans le corps de l'article d'une manière aussi forte. Et ça, c'est peut-être l'astuce de saint Thomas de la faire ressortir à propos d'une objection. C'est vrai que l'objection est massive. En Dieu, nature et personne font la même chose. Alors quand vous prétendez que l'union ne se fait pas dans la nature et qu'elle se fait dans la personne, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Ça ne veut rien dire du tout, parce que en Dieu, nature et subsistance. Et personne, c'est la même chose. Alors vous prétendez que l'union n'est pas dans la nature, donc elle est dans la substance. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, attention. Quand vous parlez de Dieu, faites attention. Vous ne pouvez pas étreindre Dieu dans un seul regard. Vous saisissez Dieu comme vous pouvez le saisir, en respectant sa simplicité absolue, secundum rem, secundum rem, selon la réalité. Mais vous devez accepter la diversité de la signification de ces mots, nature et personne. Donc, selon le per modum significandi, selon le mode de signifier. Alors ne dites pas que ce mode de signifier, c'est uniquement votre raison. Non, 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 non. On atteint quelque chose de réel. On atteint quelque chose de réel. Parce qu'autrement, vous diriez tout simplement, c'est une conceptualisation, comme on dirait aujourd'hui. Oh, c'est très bien, mais c'est une conceptualisation de la réalité. Et donc alors, votre vision du mystère de l'incarnation, c'est uniquement, ça repose sur une conceptualisation. Ça ne repose pas sur une conceptualisation. Ça repose sur ma manière de contempler Dieu et de voir que l'union de la nature humaine et de la nature divine ne se fait pas dans la nature, mais se fait par mode de subsistance. Parce que quand je parle de la personne de Dieu, je vois tout de suite le point de vue de ce qui subsiste. Tandis que quand je dis la nature, je regarde, dans le sens de saint Thomas, l'essence. Ce qu'est Dieu, l'essence de Dieu. Tandis que pour le point de vue de la personne, sa subsistance. Comment subsiste-t-il ? La subsistance de Dieu dans la simplicité. Alors voyons la seconde objection. La nature humaine n'est pas moins noble dans le Christ qu'en nous. Or, il est de la dignité de notre nature de posséder une personnalité propre. Personalitas odem ad dignitatem pertinet. Alors, vous avez persona et personalitas. Quand saint Thomas voit personalitas, saint Thomas sait très bien ce que c'est. Blanc, blancheur. Pensez toujours à ça. Hein. La personnalité, c'est ce par quoi la personne est personne. Tandis que pour nous, nous sommes tombés dans le psychologisme. Hein. Alors la personnalité, c'est psychologique. C'est pas du tout ce par quoi la personne est personne. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire grande attention quand vous traduisez personnalité. À plus forte raison devra-t-il en être ainsi pour la nature humaine du Christ ? Réponse. La personnalité, personalitas, la personnalité est requise à la dignité et à la perfection d'un être dans la mesure où cette dignité et cette perfection exigent qu'il existe par soi. La personnalité, c'est exister par soi. C'est bien la subsistance. Un être subsiste quand il existe par soi. Un être qui n'existe pas par soi est un être qui nécessairement s'appuie sur un autre. Il a besoin d'une cape. Tandis qu'au contraire, celui qui subsiste par soi, celui qui existe par soi, il subsiste. Il subsiste en lui-même. Il se tient en lui-même. Car c'est là ce que signifie le mot personne. Mais il est plus noble pour un être d'exister dans un autre plus parfait que d'exister par soi. Et c'est pourquoi la nature humaine a plus de grandeur dans le Christ qu'en nous. Car en nous, ayant une existence propre, quia in nobis, per se existens, donc existant par elle-même, elle a sa propre personnalité. Car en nous, ayant une existence, son existence propre, elle possède aussi sa propre personnalité. Tandis que dans le Christ, elle existe dans la personne du Verbe. In Christo autem existit in persona verbi. Pensez toujours aux deux essais. Hein. Existit in persona Christi. Ainsi, il appartient à la dignité de la forme de constituer l'espèce. Pourtant, l'élément sensitif qui, dans l'animal, représente une forme complète et capable de constituer une espèce est moins noble que dans l'homme où il se trouve uni à une forme plus haute. C'est très joli comme comparaison, comme analogie. Mais vous voyez comme cette analogie est encore très dangereuse. Hein. Toujours la même chose. C'est une analogie très dangereuse. Il s'agit de bien la comprendre. Donc l'objection consiste à dire que, c'est vrai, la dignité d'une personne, c'est de subsister en elle-même. La dignité d'une nature qui constitue une personne, c'est de subsister en soi. Vous voyez, alors là, on touche quelque chose que nous verrons de plus en plus. La pauvreté ontologique de la nature humaine du Christ, en vue d'une dignité plus grande. Il est plus parfait de subsister grâce à un autre plus digne que nous que de subsister en nous-mêmes. Là, c'est pas commun à comprendre. Il faut se comprendre qu'au point de vue métaphysique, mais au point de vue psychologique, non. Et c'est là, on voit très bien, tu vois, comment vous ne pouvez pas... ...de subsister dans un autre, plus grand que nous, que de subsister dans nous-mêmes. Or, c'est justement ce qui se passe pour le mystère du Christ. La nature humaine du Christ subsiste dans le Verbe, et subsistant dans le Verbe, elle acquiert une dignité unique
tout en étant la vie humaine. Spécifiquement, elle est une nature humaine. Elle garde exactement la même spécification de nature humaine. Mais elle subsiste dans le verbe. Elle subsiste dans la personne divine. Et donc, elle a une dignité plus grande parce qu'elle subsiste dans le verbe que si elle subsistait en elle-même. Alors, troisième objection. Ça, c'est très important pour bien saisir, justement, ce dépassement. Le dépassement de la nature humaine du Christ qui accepte de ne pas subsister par elle-même et en elle-même pour subsister dans le Verbe et par là acquiert une dignité unique. Boès définit la personne, la substance individuelle d'une nature rationnelle. Mais le Verbe de Dieu a pris une nature humaine individuelle, car comme le remarque Damascène, la nature universelle n'existe pas réellement, mais seulement dans la pure contemplation de l'intelligence. La nature humaine du Christ a donc sa personnalité propre et par conséquent, l'union n'a pu se faire dans la personne. Réponse. Le Verbe de Dieu, dit saint Jean Damascène, n'a pas pris une nature humaine universelle, mais individuelle. Autrement, il faudrait admettre qu'il convient à tout homme, aussi bien qu'au Christ, d'être le Verbe de Dieu. Mais il importe de se rappeler que tout ce qui, dans le genre substance, est individuel, même s'il s'agit d'une nature rationnelle, ne constitue pas nécessairement une personne. Là, vous voyez, là apparaît la substance, qui n'apparaissait pas dans l'article, dans le corps de l'article. Il faut pour cela qu'il existe par soi et non dans un être supérieur. Voilà ce qui caractérise la personne. C'est pas l'individuation, mais non. C'est de subsister par soi. Un individu peut très bien être un individu et pas subsister par soi, il n'est pas une personne. Oui, c'est pour ça qu'on sent bien le corps de l'article qui prend le point de vue du suppôt. On voit très bien pédagogiquement comment saint Thomas le prend, mais ça reste insatisfait. Parce qu'au fond, ce qui caractérise la personne, c'est le point de vue de la subsistance, et on le voit tout de suite. Hein. Et chaque fois, saint Thomas insiste là-dessus. Vous voyez, les trois objections montrent ça, en pleine lumière, et montrent trois caractères de la subsistance. C'est ça qui est très curieux. Même s'il s'agit d'une nature rationnelle, ne constitue pas nécessairement une personne. Il faut pour cela qu'il existe par soi et non dans un être supérieur. La main de Socrate, hein, c'est toujours ça que saint Thomas prend comme exemple, hein, la main de Socrate qu'on garde dans le musée, donc la main de Socrate est quelque chose d'individuel. Elle n'est pas une personne, car elle n'existe pas par soi, mais dans un tout plus parfait. C'est ce que l'on veut dire lorsqu'on définit la personne une substance individuelle. La main de Socrate, en effet, n'est pas une substance complète, mais une partie substantielle. Et donc, bien que la nature humaine soit individuelle et appartienne au genre substance, cependant, parce qu'elle n'existe pas par soi et séparément, mais dans un être plus parfait, qui est la personne du Verbe de Dieu, il s'ensuit qu'elle n'a pas de personnalité propre, c'est pourquoi l'union se fait dans la personne. J'espère que vous voyez progressivement comment saint Thomas, hein, du suppôt passe à la subsistance. Alors, le suppôt contient l'individuation et la substance. Contient l'individuation et la subsistance. Contient en réalité les deux. C'est pas explicité, mais il contient les deux. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le suppôt, quand la nature humaine, quand la nature est une nature spirituelle, une nature rationnelle, nous sommes en présence de la personne. La personne n'est pas premièrement les facteurs individuels, les facteurs individuants. La personne est formellement la substance. Formellement la substance. Et alors ça, c'est dit explicitement et progressivement. Oui, et c'est ce qui explique comment le corps de l'article nous reste fait qu'on est insatisfait. Parce que de fait, c'est ça qu'on voit pour la personne. C'est le point de vue qui subsiste. Et que l'unité se fait dans la subsistance et non pas dans la déviation, c'est bien évident. Oui.
Est-ce que la subsistance, alors, est toujours liée à une réalité impliquant l'esprit ?
Elle est toujours ?
Elle est toujours liée à une réalité impliquant l'esprit.
La subsistance, qui est personne. Pas dans la vache.
Donc c'est pas la subsistance.
Si la vache subsiste, hein, c'est une grosse question. On verra ça dans l'éternité. Si la vache subsiste, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une subsistance, qu'elle a donc une autonomie non seulement biologique, grâce à ses deux estomacs, mais une unité biologique dans l'ordre de la vie. Alors, si la vache a cette autonomie, elle subsiste. Et c'est très, très, très clou de savoir si vraiment elle a cette autonomie. Il y a sa vraie autonomie de l'espèce. Une vache demande de se prolonger dans le veau, et le veau devenant grand demande de se prolonger dans un autre veau. Ce qui montre très bien que c'est une nécessité. Parce que l'individu vache n'est pas éternel. Vous voyez ? Et donc, il subsiste selon l'espèce et non pas dans l'individu. Mais il subsiste à la manière d'une vache.
Alors, comment est-ce qu'on va formaliser pour dire la subsistance par rapport à l'esprit, pour montrer que c'est la subsistance d'une réalité spirituelle ?
C'est pour ça qu'on dit la subsistance d'une nature rationnelle. Définition de Boèce. La subsistance d'une nature rationnelle. C'est ce qui caractérise la substance. C'est ce qui caractérise la personne. C'est une grande réalité. Ce qui se dit dans une nature rationnelle. La personne ne peut pas s'abstraire de l'esprit. Vous voyez ? Et formellement, la personne, c'est la subsistance dans l'esprit, dans une nature rationnelle. Qu'il faut arrêter maintenant. On reverra après, hein, mais posez-vous la question, c'est important, c'est très important. Savoir si de fait, ce que nous dit saint Thomas ici, on voit bien, grâce aux objections, vous voyez, on voit bien, et là, un article typique, que si vous arrêtez là sans regarder les objections, vous ne comprenez pas grand-chose. Ça reste assez négatif. Je vous dis.